leur philo. Leur philo jusqu'à 21h, Karen Dehaye à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Loïc Frapsos qui est aux manettes. Quartier rouge ou le plaisir et la gauche, c'est un livre, il est signé Michael Fessel qui est ce soir notre invité.
France Inter, leur philo, Patricia Martin.
Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi.
D'accord.
La phrase.
Elle m'expliqua qu'elle appliquait à sa vie le vieux slogan 68ard, faites l'amour, pas la guerre. Depuis plusieurs années, elle couchait avec ses ennemis politiques dans le but de les convertir à sa cause. Elle utilisait son corps comme une arme de destruction massive des fachos. Le terme de facho s'entendait chez elle dans un sens très large.
Parce que moi, je peux faire des grandes choses avec mon cul-de-sac. Regarde, lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ?
Extrait du film Le Nom des gens, un film de Michel Leclerc. C'était en 2010 avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Bonsoir Michael Fessel.
Bonsoir.
C'est donc l'histoire d'une femme de gauche qui couche avec des hommes de droite. Sauf qu'avec Jacques Gamblin, ce sera un petit peu différent. Parce que d'abord, un, elle va tomber amoureuse. Et deux, elle apprendra très vite qu'il vote Jospin. En quoi est-ce que cet exemple est éclairant sur le sujet qui nous occupe, à savoir l'appartenance politique du plaisir?
Bah, ça a été un peu suggéré par l'extrait qu'on a entendu dans la citation que fait Gamblin, je crois, de slogan de 68. Mmh. J'en citerai un qui est tout à fait, à mon avis, qui évoque tout à fait le scénario de ce film. C'est « Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution. Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. » C'est-à-dire cette idée, peut-être un peu légère, mais qui a peut-être aussi une forme de profondeur, selon laquelle il y a davantage de plaisir, davantage de joie chez les partageux, chez les égalitaires. En tout cas, c'est ce que pense l'héroïne de ce film, qui effectivement essaie de convaincre, en quelque sorte de convertir des hommes conservateurs de droite, de changer d'opinion, et le fait par le corps plutôt que par les idées, c'est-à-dire qu'elle mise, si j'ose dire, sur le moment de l'orgasme pour montrer qu'il y a, dans une certaine forme, y compris d'ailleurs de féminisme, plus de plaisir que dans des conceptions plutôt traditionnalistes.
Mais est-ce qu'il s'agit pour la gauche, Michael Fessel, de bouder les plaisirs qui seraient formatés par une forme de consumérisme ?
Alors évidemment, il y a un problème entre le plaisir et la gauche, c'est que le plaisir, on le dit d'ailleurs, on le prend là où il est, et là où il est aujourd'hui pour nous, c'est dans un système qui est effectivement marqué par la consommation, le consumérisme et même d'ailleurs le marché. Alors de ce point de vue-là, il y a toute une théorie, il y a toute une série d'ailleurs de théories de gauche, et puis ça date au moins de Rousseau, qui consiste à suggérer que nos plaisirs sont suspects, bon, qu'on soit de gauche ou pas, mais enfin en tous les cas, dès lors qu'on veut avoir un point de vue critique sur la société, le plaisir c'est ce qui met en suspens la critique. C'est le moment où précisément d'ailleurs on dit, alors ça c'est pas la thèse que je défends, mais c'est un petit peu l'argument qu'on oppose au rapport plaisir-gauche, c'est le moment où on est satisfait. Et les gens qui sont satisfaits sont des gens qui, en général, la formule le dit bien d'ailleurs, ne font jamais un pas de plus au-delà de ce qu'ils ont.
On commence en Colmao et on finit au Rotary Club.
Et on finit au Rotary Club parce qu'on finit par considérer que le monde va très bien puisque j'y suis bien. Et donc au fond, il y a un certain vécu du plaisir. Alors, je ne sais pas s'il est de droite, mais il correspondrait assez bien à un certain nombre de ceux qui sont passés de 68 à, je dirais, au Rotary Club. C'est-à-dire, finalement, qu'ils se sont installés dans le confort, dans une espèce de, pour des raisons sociologiques, mais aussi pour des raisons liées parfois au vieillissement, qui sont consacrées dans cette idée que finalement le monde n'est pas si mauvais que cela, puisqu'il leur permet de trouver toute une série, disons, de joie, en particulier quand ils sont du bon côté de la barrière. La question, c'est quand même de savoir si il y a des plaisirs qui ne sont pas forcément dissolubles ou solubles plutôt dans le confort.
Mais le plaisir n'est en rien un programme politique, des convictions, une critique sociale. Ça s'appuie plutôt sur ce qui va pas, sur la souffrance des uns et des autres.
Oui, en tout cas, quand on est dans une posture critique par rapport à la société, en général, on s'appuie plus spontanément, si je puis dire, sur la souffrance. Parce que la souffrance, ou les souffrances, qu'elles soient liées aux problèmes économiques, aux problèmes de domination politique, aux problèmes de domination de genre, la souffrance, c'est l'expression sensible de l'injustice. C'est la première, on pourrait dire, expérience de l'injustice qui, même chez les enfants déjà, fait qu'on dit d'abord « c'est pas juste » avant de se poser la question de savoir ce qu'est la justice. Alors moi je remets pas du tout en cause cette chronologie, si l'on peut dire. Il est vrai que devenir de gauche ou avoir un esprit contestataire, pourquoi pas d'ailleurs même de contestataire de droite, cela part en général d'un scandale. C'est-à-dire d'avoir le sentiment que entre ce qui est et ce qui devrait être, il y a une telle différence que
c'est
intolérable. C'est pas juste et c'est intolérable. Cela étant, la conscience malheureuse, qui est un élément de la conscience critique, la conscience malheureuse, il faut aussi qu'elle sache qu'elle est malheureuse. Autrement dit, qu'elle puisse avoir, pour espérer autre chose, un autre monde, des expériences de ce que tout dans l'enfer, si je puis dire, n'est pas l'enfer. C'est-à-dire, on sait très bien aussi, Marx appelait ça le prolétariat en haillons. Il disait, ceux qui sont vraiment au bout de la douleur, de la souffrance, de l'exploitation, ceux-là ne sont pas, et personne ne songerait d'ailleurs à le leur reprocher, ne sont pas dans la contestation, parce que la douleur est trop forte. Il misait même Marx sur, si je puis dire, la tranche un peu plus haute de ceux qui ont tout de même des expériences positives avec le monde, y compris de plaisir, qui simplement nous indiquent qu'autre chose est possible puisque c'est déjà réel. On prendra sûrement des exemples de ce que, même dans un monde traversé par des inégalités, même dans un monde traversé par des dominations, par des hiérarchies souvent intolérables, eh bien, il y a, heureusement, des espaces pour, je dirais, contredire, mais pas simplement par l'imaginaire, dans nos expériences mêmes, et y compris dans nos expériences heureuses, contredire la logique de ce qu'on appelle à tort ou à raison le système.
Et puis le plaisir, c'est aussi une énergie, et cette énergie-là, elle peut mobiliser les gens.
Oui, je ne ferai pas du tout du plaisir à un programme politique. Quand on a déclaré que le bonheur était une idée neuve en Europe, on a peut-être aussi tordu le bâton dans l'autre sens, à vouloir imposer une image du bonheur, mais le plaisir, qui déjà est un peu différent du bonheur, car il est quelque chose, je dirais, de plus modeste en un sens, peut-être un peu plus individuel aussi. Mais déjà, le plaisir, effectivement, c'est une énergie, c'est ce qui...
Il y a une dimension émancipatrice aussi du plaisir.
Émancipatrice par le fait que nous expérimentons, du moins dans certains plaisirs, c'est la formule que j'emploie dans le livre parce qu'elle me paraît dire les choses le plus justement possible, du moins pour moi, nous expérimentons le fait d'avoir plusieurs corps. Dans certains plaisirs, c'est-à-dire des plaisirs qui... je le disais tout à l'heure, contredisent la logique sociale. Tout d'un coup, j'ai une joie sur mon lieu de travail, j'ai une forme de rire qui s'empare de moi dans une réunion très, ennuyeuse et soi-disant sérieuse d'ailleurs, ou alors des petites choses qui peuvent aussi parfois prendre une forme plus, insurrectionnelle. Non, il y a tous les grands mouvements de révolutionnaires sont manifestés aussi par des fêtes.
Mais c'est que ce soit... Et la fête n'est pas finie.
Et la fête n'est pas finie, et peut-être même elle va recommencer. En tous les cas, il serait bon qu'on en ait de temps en temps des expériences égalitaires. Donc toutes ces expériences qui vont du petit plaisir à la grande joie collective et qui redonnent à nos corps le sentiment qu'au fond nous ne sommes pas destinés à n'être que des travailleurs, que des femmes soumises, que des hommes même soumis au patriarcat, si je puis dire, c'est-à-dire le développement. Autrement dit, qu'est-ce que c'est un plaisir? C'est ce qui modifie mon corps, c'est ce qui, en tout cas les plaisirs inattendus, c'est ce qui s'empare de moi. Vous savez, on dit, les plus grands plaisirs, c'est ceux dont on ne revient pas. Et on associe d'ailleurs l'orgasme à la petite mort. Alors, on n'en revient pas, évidemment, la mort, c'est peut-être quelque chose de tragique, mais c'est cela que ça veut dire, on n'en revient pas identique au moment qui a précédé ce plaisir. On apprend quelque chose sur soi, sur les autres et sur sa propre puissance.
Quartier rouge, c'est le titre de votre livre, Michael Fessel. Donc, quartier rouge, c'est le quartier chaud d'Amsterdam, c'est ça?
C'est évidemment un peu un pied de nez que j'ai pris pour ce titre, car il me fallait un titre qui associe plaisir et gauche, y compris dans ce qu'il peut y avoir de problématique entre les deux. Donc, le rouge renvoie plutôt à la tradition de gauche, et quartier rouge, effectivement, c'était un quartier d'Amsterdam.
Oui, mais c'est dévolu. Le rouge, c'est aussi l'amour. Hein.
Voilà, dévolu à l'amour, dévolu à la sexualité et à la prostitution. Même voilà. Donc il y a évidemment là, dans ce titre aussi, comme un peu c'est plus l'énoncé d'un problème, c'est-à-dire, évidemment, les plaisirs dans une société marchande vont jusqu'à la marchandisation du corps. Et par conséquent, même si moi je ne suis pas du tout partisan des positions prohibitionnistes concernant la prostitution, mais néanmoins, évidemment, on ne peut pas non plus se satisfaire de dire que tous les plaisirs, je dirais, sont justifiés. Il y a des plaisirs pris sans vergogne, sans considération de l'injustice qu'ils peuvent coûter à ceux à qui on les prend. Donc il y a des plaisirs qui sont évidemment condamnables, si je puis dire, et même politiquement réactionnaires ou en tout cas conservateurs.
Bah surtout quand on voit que c'est une attraction touristique majeure, que ce quartier rouge. Il y a même les bus s'arrêtent pas juste, ils sont un peu plus loin, mais il y a des bus entiers de japonais qui viennent là pour prendre des photos.
Alors en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas
de japonais
on ne peut pas certainement se
rien contre les japonais.
Comment ?
Je n'ai rien contre les Japonais.
Des conseils. On se plaint de ces quartiers, on a raison de le faire. On a aussi, je dirais, aseptisé beaucoup à Paris, en particulier les grandes métropoles capitalistes, y compris donc Amsterdam l'a fait. Je dirais qu'on n'a pas tout réglé, évidemment, en exportant vers la périphérie, vers en l'occurrence ici souvent, pour ce qui est de Paris, vers les bois ou les banlieues, des formes, y compris de prostitution, ou alors le quartier rouge d'Amsterdam, c'est aussi la marijuana ou l'herbe, des formes, disons, d'économie parallèle. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus au centre qu'ils n'existent plus et qu'ils doivent échapper aussi au champ de vision de ceux qui veulent transformer la société. Au fond, cette image un peu hygiéniste d'une société parfaite, on peut peut-être la rêver, on peut aussi la cauchemarder, mais en tous les cas, elle ne correspond pas à ce que nos sociétés sont, à part peut-être dans des lieux ultra-centralisés que l'on veut mettre en valeur.
Michel Fessel, vous êtes donc notre invité ce soir jusqu'à 21h. En voilà une que nous aimons beaucoup sur France Inter. Émilie Loiseau, celle qui vit vers le sud.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là. Celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là. Celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre sourit et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe. Elle faisait pour moi des nattes si belles. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Je me demande si elle se souvient de moi, de mon visage. Je prie souvent pour ça. Ce voyage vers le sud, là où le vent colle le sable sur les frontières, parle-moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle-moi à celle qui vit là, celle qui dort aujourd'hui sous la terre.
C'est la grève chez les métallos. Le public qui voit tout ça de loin ne comprend guère. Mais qu'est-ce que c'est ? Un mouvement révolutionnaire ? Mais tout est calme. Un mouvement revendicatif ? Mais pourquoi si profond, si général, si fort, si soudain ? Quand on a certaines images enfoncées dans l'esprit, dans le cœur, dans la chair elle-même, on comprend. On comprend tout de suite. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie.
Extrait d'un texte de la philosophe Simone Veil, lu par Hervé Dubourgeal. En deux mots, Michael Fessel, il faut peut-être rappeler le travail et la réflexion de Simone Veil, pour qui la philosophie, c'était déjà de vivre en conformité avec ses idées, c'était de vivre dans la vérité.
C'était de vivre dans la vérité, de vivre aussi dans l'injustice, quand l'injustice régnait, je veux dire, en la subissant. Donc c'est une femme qui, on peut dire, avait une dimension un peu mystique, sacrificielle même, et elle mourra de manière prématurée. Mais en 1936...
Oui, vous pouvez dire comment elle est morte, d'ailleurs.
Elle est morte à Londres, je crois en 1942 ou 43. Mmh. Elle avait demandé à De Gaulle de se faire parachuter en France pour aider la résistance. De Gaulle avait refusé, elle était déjà très affaiblie. Et alors on ne peut pas le dire très 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 certainement, mais enfin elle s'est laissée mourir et elle a écrit des textes tout à fait bouleversants pour expliquer à quel point elle ne supportait pas le fait de ne pas être, je dirais, non seulement en esprit mais en chair avec les résistants. Et d'une certaine manière, ce qui se passe plus tôt, donc en 1936, est relativement similaire en ce sens que elle était habitée par la condition ouvrière, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, et elle a voulu pour cela la vivre. Et donc elle est allée travailler dans les entreprises métallo, les usines métallo, pardon, ou d'ouvrières de la banlieue parisienne. Et elle a donné de ses documents, de ses textes, dans ses textes liés à la condition ouvrière, une description admirable du rapport, je dirais, aliénant à la machine, de la manière dont les corps sont contraints. L'été peut-être plus ou davantage qu'aujourd'hui, mais peut-être pas tant que cela, parce que finalement la machine l'emporte, ou la logique de la machine l'emporte sur la possibilité de l'émotion corporelle. Donc c'est une dénonciation évidemment du capitalisme industriel, mais faite sur un mode extrêmement sensible. Alors et il se trouve qu'elle est précisément ouvrière pendant les grèves, la grande grève générale qui suit la victoire du Front populaire.
Mais l'occupation des donc
et les occupations d'usines, c'est-à-dire c'est juste après la victoire en mai, mais c'est avant que Blum ne devienne président du Conseil. Et donc il y a ce mois et demi qui va marquer une grêve générale caractérisée pour la première fois dans l'histoire de France par des occupations d'usines. Et pas simplement par le fait de ne pas aller travailler. Alors, occupation d'usine, qui, comme ça a été très très bien lu, que Simone Veil voit comme des éléments, je dirais, de joie pure, c'est-à-dire une sorte de plaisir qui est d'autant plus intense qu'il est pris sur le lieu de la douleur, ou sur le lieu de la domination, ou sur le lieu des machines, dans un
donc
autre passage.
Donc on sort de la contrainte et de la soumission, quoi, en fait.
Tout à fait. Et on le fait, je dirais, sans pour autant avoir d'emblée obtenu ses revendications. C'est-à-dire, on n'est pas dans la logique seulement du désir, et les revendications vont suivre, le congé payé, ou la semaine de 40 heures. Mais on est dans le moment, et elle le dit, on ne pouvait plus attendre, la brèche était ouverte, et comme une évidence, l'évidence était de se rassembler, de chanter, de danser, de faire la fête.
Et on ne détruit pas les machines.
Et les machines n'ont pas été détruites, ce qui n'a pas manqué pour autant de mettre les patrons de l'époque dans une stupeur totale, oui. Terrifiée, qui les ramènera à la table des négociations d'ailleurs. Mais ce qui est très bouleversant, je trouve, dans cet exemple, et d'ailleurs dans cette idée, plutôt plus qu'une idée, cette expérience, c'est qu'au fond, on dit souvent « le plaisir n'attend pas ». Et par là, on veut aussi, d'un point de vue moral, critiquer un peu cette notion de celui qui est toujours assoiffé, ou de celui qui en veut toujours plus. Mais ici, le plaisir n'attend pas, c'est-à-dire au fond, ces femmes, elle parle des ouvrières, mais c'est vrai aussi des ouvriers, n'ont pas voulu attendre un jeu, le jeu des négociations entre le patronat et les syndicats, dont elles n'étaient plus ou ils n'étaient plus les maîtres. Ils ont voulu d'emblée marquer...
Vivre dans le présent.
Vivre dans le présent.
Tout en envisageant l'avenir, mais c'était surtout le présent, l'instant
voilà,
présent.
Voilà, et l'avenir se construisait au présent. Ouais, et l'avenir, c'était de mettre, comme elle le dit si bien, de la chair sur ces machines. C'est-à-dire, pour la première fois, et elle dit à un moment aussi, on ne l'a jamais oublié cela, même si après il y a eu les échecs, les difficultés liées à n'importe quel mouvement politique, mais on n'oubliera jamais que non seulement un autre monde est possible, mais qu'un autre monde a été réel pendant quelques semaines, c'est-à-dire un monde dans lequel l'usine n'était pas seulement un lieu de souffrance.
Et alors il y a un autre exemple qui est tout à fait intéressant, Michael Fessel, dont vous parlez donc dans votre essai Quartier Rouge, c'est un exemple que vous puisez dans la littérature, même si lui-même cet exemple est puisé dans la réalité aussi, c'est Germinal de Zola, où là aussi il se passe des choses pour la première fois.
Il se passe des choses effectivement étonnantes et qui vont un peu défaire les hiérarchies sociales, puisqu'il y a une scène comme ça que j'ai toujours trouvé assez fascinante, où pendant d'ailleurs la grève de la mine, le directeur de la mine, il s'appelle Enbo, se promène sur son cheval le dimanche, c'est-à-dire le seul jour où les ouvriers, enfin les mineurs en l'occurrence, ne sont pas astreints à un travail physique extrêmement pénible. Et il voit, c'est très intéressant parce qu'il le voit depuis son cheval, donc depuis la position de supériorité qui est la sienne, il voit, ou plutôt d'ailleurs il devine, dans les bois qui entourent la mine, les embrassades, les corps des mineurs et de leurs compagnes.
Qui ne sont plus seulement voués au labeur.
Qui ne sont plus voués au labeur, qu'il a expérimenté une forme de jouissance typiquement que le bourgeois ne peut pas s'autoriser. Il se trouve qu'en plus...
Surtout lui, parce qu'il a de gros problèmes. Il aime beaucoup sa femme, mais l'inverse n'est pas vrai.
Voilà,
sa
le
femme
désir n'est plus vraiment partagé. Non. Et donc, au fond, il est le témoin dans cette scène extraordinaire, il est le témoin passif de plaisir prolétaire, si je puis dire. C'est-à-dire, et il dit à un moment, je cite de mémoire, mais au fond, c'est eux qui ont raison. Moi aussi, je voudrais bien faire l'amour sur des cailloux. Enfin, il y a cette espèce de, alors évidemment, d'association du prolétaire avec la rugosité. Mais bon, cela étant, il n'avait pas d'autre lieu à cette époque-là pour faire l'amour que les forêts, si je puis dire. Par conséquent, il y a ce moment, cet hommage quelque part rendu aux pauvres par le riche, et aussi cette idée qu'il y a, alors qu'évidemment ne doit pas être traduite dans les mêmes termes aujourd'hui, qu'il faudrait retraduire, mais que tous nos plaisirs ne sont pas embourgeoisés. Je dirais, tous nos plaisirs ne sont pas, je dirais, solidaires ou relatifs ou proportionnels à notre compte en banque.
Mais là aussi, il y a une routine avec ce qui se passe dans Germinal, ou avec ce que raconte... Simone Veil, il y a une routine qui se brise tout à coup. Ce que vous dites, le plaisir tout à coup surgit, et donc on est au-delà de ce qui était prévu. On est au-delà de la consommation même à la limite.
On est au-delà de la consommation. On est au-delà d'ailleurs le pour ce qui est de la sexualité, de faire l'amour dans des bois. C'est un plaisir gratuit. C'est une chose que les mineurs qui n'avaient évidemment pas beaucoup d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire, peuvent s'offrir. Et d'ailleurs Zola n'est pas non plus là-dessus complètement idéaliste. Il marque aussi la dureté des rapports, particulièrement entre les hommes et les femmes, dans les mines. Cela étant, il y a cette idée qui me semble assez précieuse, que le plaisir, d'abord, n'est pas une affaire, je dirais, de classe, bon, et puis que, parce que même les ouvriers de Zola, il y a, j'ai oublié son nom maintenant, un des personnages de Germinal, qui est un révolutionnaire doctrinaire, et qui condamne, lui, ses plaisirs des mineurs, plaisirs sexuels, comme il condamne aussi les fêtes qu'ils organisent, parce qu'il considère que ce sont des manières, au fond, de se détourner du vrai combat. Hein. C'est-à-dire, il y a un sérieux révolutionnaire ou un sérieux de gauche, dirait-on, qui est aussi un obstacle, parfois, à la jouissance, au sens où on considère que jouir dans un monde injuste, c'est en un sens déjà participer de cette injustice.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de considérer le plaisir prolétaire comme quelque chose de démesuré, qui peut vite dépasser la mesure ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, en tout particulier pour ce qui est du plaisir sexuel, il est lié à l'idée que les prolétaires, ce sont ceux qui, comme ils n'ont que leurs enfants pour richesse, si je puis dire, ont une sexualité débridée, je ne sais combien d'enfants, à quoi on ajoute d'ailleurs en général dans les stéréotypes l'alcoolisme pour les pauvres. Mais il y a en tout cas, à mon sens, je ne sais pas s'il faudrait le comprendre encore en termes de prolétariat aujourd'hui, mais en tous les cas, il me paraît assez évident que l'excès du plaisir, sa démesure, je dirais, est déjà en un sens une manière de résister à ce qui fait que dans nos vies tout est mesuré, tout est quantifié, parce que au fond c'est pas tellement l'excès, c'est plutôt la démesurée. Après tout, une tendresse, une douceur peut-être démesurée, il peut y avoir dans certains plaisirs, surtout dans un monde qui est de plus en plus dur ou difficile ou violent même, on peut trouver de la démesure dans une caresse, je dirais. Et donc tout ce qui remet en cause, en un sens, les impératifs de rendement, de productivité. Ça peut être une fête démesurée, excessive, mais ça peut être aussi un moment, je dirais, tout à fait sobre. C'est pour moi le problème du plaisir, politiquement, je veux dire, si on s'interroge sur lui politiquement, c'est pas son objet. Hein, c'est pas la question de savoir si on préfère le steak frites ou le quinoa. Bon, ça a un peu intéressé pendant la campagne, mais le problème, c'est le rapport que l'on entretient avec ces objets. C'est-à-dire le fait, à plaisir, le problème, c'est de savoir si on peut le partager. Est-ce qu'il diminue dès lors que je le partage avec d'autres ? Il y a des plaisirs, et on en a vu des exemples même à l'instant avec Simone Veil et même Zola, il y a des plaisirs qui s'augmentent d'être partagés. Et qui, d'une certaine manière, le Enbo, c'est celui qui, lui, a le plaisir de sa propriété. Et au bout d'un moment, il en a marre d'être un propriétaire.
Et la beauté dans ce qu'elle a de plus gratuit et la beauté qui se partage après tout, elle est augmentée aussi. Ça peut procurer du plaisir. C'est un plaisir désintéressé, comme l'a écrit Emmanuel Kant. Je pense à lui parce qu'il parle dans ce plaisir de quelque chose de comme ça. C'est un petit miracle, quoi. C'est quelque chose d'inespéré, d'inattendu. Et je signale d'ailleurs à nos auditeurs que là, nous parlons de Quartier Rouge. Mais il y a un autre bouquin dont on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas le temps, que vous avez écrit, Michael Fessel, qui est Kant et l'équivoque du monde.
Il y a bien longtemps. Parce que c'était ma thèse.
Vous ne reniez pas votre thèse,
j'espère. Je ne la renie pas, non, pas du tout. Mais alors, il y a quand même un lien, effectivement, parce que Kant est considéré comme un auteur, non seulement, je dirais, très rigoureux, mais rigoriste. Mmh. Et donc, on pourrait s'étonner que quelqu'un qui a d'abord travaillé sur Kant, ce qui est mon cas, fasse une sorte d'apologie du plaisir. Mais on se trompe, à mon avis, parce que, bon, Kant n'était pas du tout hédoniste, si on appelle hédoniste l'idée que le plaisir est le principe moral ultime de nos vies et qu'il faut au fond calculer nos actions en fonction du plaisir que l'on peut en attendre. En ce sens, il n'est pas hédoniste et d'ailleurs moi non plus. Mais en revanche, vous avez tout à fait raison, il a consacré un livre entier, une de ses trois critiques, la troisième qui s'appelle « La critique de la faculté de juger », au moins pour partie, au plaisir esthétique. Et il a affirmé, montré que le plaisir esthétique, donc le plaisir que l'on ressent devant la beauté des choses, ou des paysages, ou de la nature, et ce qui est un peu moins important pour lui, des œuvres d'art, mais en tout cas devant la beauté, est un plaisir qui est très très paradoxal, parce qu'il n'est précédé par aucun désir. Il prend l'exemple d'ailleurs à un moment de la nature morte, c'est-à-dire quand je vois la représentation d'une pomme, je n'ai pas envie en tout cas si j'ai envie de la consommer, c'est que je rate le rapport esthétique. Je la vois, elle est là, et si elle est belle, sa beauté est désintéressée, dit-il, c'est un plaisir désintéressé, c'est-à-dire sa seule présence, en quelque sorte, à cette représentation picturale, suffit à mon plaisir. Je n'ai pas besoin de m'approprier la chose. Et même si lui, le Kant, ne l'envisage pas du point de vue du tout ici politique, il l'envisage comme une sorte de construction liée à l'esthétique, il veut distinguer entre les plaisirs qu'il appelle l'agréable, c'est-à-dire le fait, il prend l'exemple de l'alimentation d'ailleurs, et puis les plaisirs esthétiques purs. Eh bien, je pense quand même qu'on peut trouver un sens politique, parce qu'au fond, c'est quoi les plaisirs politiquement intéressants, et d'ailleurs, je dirais aussi les plaisirs les plus intéressants dans la vie, que ce soit politique ou pas. Ben, c'est justement les plaisirs qui ne sont pas précédés par des désirs. Je veux dire par là, avant que les ouvrières, dont parle Simone Veil, n'aient chanté, dansé, bu, fait la fête, peut-être fait l'amour, qui sait, sur leur lieu de travail, elles n'ont pas désiré le faire. Ça n'appartenait pas à l'ordre de la représentation, c'était considéré comme impossible. Mmh. Ça n'est devenu possible qu'à partir du moment où ça a eu lieu. Donc au fond, ça c'est assez proche, je pense, de l'idée de Kant, c'est-à-dire l'idée joie pure, d'ailleurs, Kant dit plaisir pur, parce que ça veut dire, un plaisir m'arrive, je ne l'avais jamais imaginé, il nous arrive d'ailleurs collectivement, et à partir de là, peut-être d'autres désirs vont arriver. C'est-à-dire par exemple le désir qu'on puisse vivre dans un monde où le travail ne soit pas forcément séparé du plaisir. Donc ces plaisirs qui sont désintéressés pas au sens moral, mais au sens où au fond on n'a pas besoin de se les approprier pour en jouir, me paraissent être très précieux dans la vie et particulièrement dans le champ de la politique.
Alors, les plaisirs qui sont arrivés à François Mitterrand ont peut-être été anticipés, peut-être désirés longtemps avant. François Mitterrand, donc, après le congrès d'Épinay, c'était en juin 1971.
On a proposé aux dirigeants un certain nombre de sigles, d'emblèmes, de toutes sortes. Et j'ai été séduit par cet emblème qui provenait de la jeunesse socialiste à Paris. Le point et la rose. Je sais pas, je voyais dans le point tel qu'il est dessiné, la fermeté, la volonté pour les travailleurs de l'emporter. Alors la rose. Moi, j'aime les fleurs. Chaque fois que je le peux, quand je suis en vacances, je m'occupe de mes fleurs. Je ne suis pas un grand jardinier. Et les roses, c'est calé, hein. C'est particulièrement difficile à entretenir. Alors une rose, pour le Parti Socialiste, c'est un symbole. C'est pas facile, on s'y écorche les doigts, mais c'est beau. Et en même temps, cela élève le cœur.
Alors, le point pour la lutte, la rose pour le bonheur, force et fermeté, Michael Fessel, c'est... En quoi est-ce que c'est éclairant pour
mon avis, dans cette image du point et de la rose, bon, quoi qu'on pense de ce que deviendra ensuite de ce que signifiera ce symbole, initialement d'ailleurs Mitterrand le dit là, il faut aussi se souvenir qu'on est en 71, donc on est tout juste après 68, donc il y a aussi sous les pavés la plage, c'est d'ailleurs la même chose, hein. Là, les pavés, la lutte, la plage,
Et vivre sans temps mort et jouir sans entrave.
Et voilà. Et c'est cette idée un peu dialectique, c'est-à-dire une sorte de contradiction apparente entre le point qui désigne quelque chose de plutôt fort, peut-être être potentiellement violent, en tout cas quelque chose de qui relève d'un certain sérieux politique, la lutte. Et puis la rose qui, d'ailleurs là, Mitterrand le dit justement, bon, est plutôt du côté de la joie, de la beauté. Donc on pourrait se dire le point, la lutte pour qu'un jour nous ayons des roses, mais il ajoute, il a raison de dire que la rose a des piquants. Et autrement dit, il y a des plaisirs, il y a des joies qui sont subversives dans une société, particulièrement peut-être d'ailleurs à l'époque où il parle, les plaisirs des femmes. Ça reste d'ailleurs, le plaisir des femmes reste de ce point de vue aussi, encore aujourd'hui, je veux dire, une rose avec des piquants, puisqu'il remet en cause, on le voit bien par toutes les réactions masculinistes ou virilistes qu'il provoque depuis que les femmes revendiquent leur plaisir, ou en parlent, ou le formalisent différemment que ne le faisaient pour elles les hommes, les minorités sexuelles, les homosexuels, des plaisirs qui sont, au fond, déjà des conquêtes par rapport, parce qu'ils impliquent, pour pouvoir être vécus, simplement, des conquêtes par rapport à un ordre, soit patriarcal, soit social, qui exclut simplement de la sphère de la jouissance un grand nombre d'individus. On a tort, à mon avis, de considérer que au fond, après 68, par la levée des tabous, immédiatement, nous serions tous rentrés dans une société égalitaire du côté des plaisirs. C'est pas parce que nous regardons tous les mêmes séries, que nous sommes tous, que en quelque sorte, formatés par un certain nombre d'impératifs publicitaires en particulier, qu'il ne demeure pas un certain nombre d'allégresses qui sont, je dirais pas dangereuses, mais un petit peu subversives pour les pouvoirs les plus autoritaires, y compris dans nos sociétés.
Ne pensez-vous pas, Michael Fessel, qu'on a rendu aujourd'hui, peut-être, qu'on l'a rendu, enfin, en tout cas que le monde, oui, qu'on l'a rendu, que le monde est moins désirable, c'est-à-dire que notre état d'esprit aujourd'hui est plutôt catastrophiste, et par principe, évidemment, c'est assez hostile au plaisir.
Alors la catastrophe, si elle doit être, je dirais, une fin du monde sans retour, évidemment, elle ne met pas forcément sur la voie d'une sorte de désir, d'imaginaire du plaisir, et même d'ailleurs, elle renforcerait plutôt le côté punitif ou d'une condamnation a priori du plaisir. Comment peut-on quelque sorte s'amuser au bord d'un précipice. Bon. Il faut tout de même remarquer d'ailleurs que quand dans les grandes périodes millénaristes, où on a vraiment cru aussi à la fin du monde, déjà pour des raisons religieuses, d'abord apocalyptiques, eh bien il y avait toujours un moment, je suis assez troublé que ça ne soit pas le cas aujourd'hui, où pour ceux qui adhèrent vraiment à cette idée que le monde est au bord de sa disparition, eh bien ce que ça a provoqué dans l'histoire, traditionnellement, pas en ce moment, mais c'est plutôt une sorte d'excès dans ce sens, vous savez, c'est un peu comme quand on nous posait la question quand on était adolescent, peut-être on le fait plus tard, que ferais-tu s'il te restait 24 heures à vivre, hein. Bon, il est rare que l'on réponde en disant qu'on va faire du yoga ou du fitness. Donc il y a quand même une dimension, on peut avoir une dimension un peu ascétique. Là, je me suis pas posé la question depuis longtemps, mais en tout cas, pas du yoga, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut peut-être essayer aussi de comprendre pourquoi nous tenons au monde, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous voulons absolument retarder sa fin et faire en sorte que elle n'advienne pas. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur la conscience malheureuse. Il est évident que les catastrophes, je peine parfois à employer ce terme, les crises que nous vivons, y compris en particulier dans le champ de l'écologie et des crises climatiques, mettent au centre désormais des questions de survie. Mais les questions de survie pour l'humanité, à mon avis, doivent être articulés quand même aussi à des questions qui portent sur la vie bonne. C'est pas simplement tout faire pour survivre, y compris en matière écologique, car des pouvoirs fort autoritaires peuvent très bien s'emparer de cette exigence. Encore faut-il savoir au nom, si je puis dire, au nom de quoi on veut survivre. C'est-à-dire au nom de quelle forme de vie, de quel type de vie. Et ici aussi, pas bien sûr, pas uniquement, mais de quel type de plaisir, de rapport au monde, de rapport entre les corps, voulons-nous, comme on le dit aujourd'hui, sauver la planète. Donc il s'agit pas de dire, évidemment, d'être... Moi, j'essaie de ne pas prendre parti entre un optimisme et un pessimisme, parce que dans les deux cas, d'ailleurs, on décide du temps qui va venir, du temps... on décide de son essence, on décide de l'avenir. Et d'une certaine manière, le plaisir, c'est précisément les plaisirs inattendus. Les événements qui ne sont justement pas des catastrophes, qui sont des événements joyeux, les choses auxquelles on ne s'attendait pas, il faut les mettre, me semble-t-il, en balance avec le fait qu'effectivement, il y a aussi des événements catastrophiques. La guerre en est un excellent exemple aujourd'hui, qui revient sur le sol européen. La catastrophe climatique, c'est-à-dire au fond... Je crois que c'est un immense défi pour aujourd'hui. Essayer de retrouver avec l'avenir un rapport qui ne soit pas simplement un rapport d'angoisse. Mmh. Et cela ne passe pas simplement par des programmes politiques. Je pense que cela passe aussi par des expériences, y compris de plaisir, qui montrent que dans un, même dans un monde profondément injuste, il est possible de résister par les corps.
Et est-ce qu'on peut faire fi de quelque chose qui est important, qui est l'ascèse ? Parce que l'ascèse, c'est pas rien. On nous demande un peu quand même d'être un peu ascétique. On peut céder à la tentation ascétique aujourd'hui. Alors vous parliez tout à l'heure de faire du fitness, mais faire du sport, mais tout ça, ça participe à tout ça. Mais manger sain, il y a une idéologie, on investit sur son corps, on veut qu'il soit rentable, ça vous l'expliquez aussi très bien hein, dans votre livre, Michael Fessel.
La cèse, c'est une vieille histoire, hein, c'est une vieille affaire, ça remonte au moins aux stoïciens, donc au début de notre ère.
Elle est réputée de gauche, la cèse
maintenant, on la présente comme étant de gauche. Je crois qu'originairement, elle ne l'est pas vraiment.
Non, mais elle est puritaine.
Elle est plutôt puritaine, elle a été même, d'après le grand sociologue, Max Weber, la cèse puritaine des calvinistes a été, je dirais, en quelque sorte l'idéologie du capitalisme naissant. Parce que, qu'est-ce que c'est l'ascèse ? C'est pas la question, justement, c'est pas le fait de faire du sport, c'est une certaine manière de faire du sport. Je dirais l'ascèse, c'est l'ensemble des tentatives, tout à fait compréhensibles dans bien des cas, qui visent à contrôler notre corps, non seulement dans le champ du plaisir, mais aussi dans le champ de l'alimentation. Les premiers végétariens, c'était des ascètes néoplatoniciens, ça remonte au 3e siècle après Jésus-Christ, avec cette idée que l'esprit doit avoir en quelque sorte une représentation de ce qui est compatible avec son corps. C'est-à-dire je dois absolument m'empêcher de vivre des événements qui me déstabiliseraient, qui me remettraient un peu en cause. L'ascèse, c'est un projet de contrôle de soi, qui a une dimension morale. C'est l'image du sage stoïcien qui veut que rien, au fond, ne vienne ébranler son existence. Alors, puisque vous parliez du sport...
C'est pas très, très, très bien avec l'expérience du plaisir.
Pas vraiment, non.
Pas vraiment. Et c'est... pas plus avec la conscience de la gauche, d'ailleurs.
Non plus. Mais effectivement, parce que c'est cette idée que... D'abord, c'est très individualiste. L'ascèse est née chez les stoïciens, c'est-à-dire à un moment, juste après... un peu avant Jésus-Christ, mais après la chute, si on peut dire, d'Athènes. C'est-à-dire à un moment où, par rapport à Platon et Aristote, qui précède, la politique, la cité n'est plus le champ fondamental de l'expérience, parce que Athènes a perdu de sa puissance, et donc on va avoir des morales stoïciennes, épicuriennes, où on dira il faut s'occuper de son jardin. C'est déjà très individualiste, au fond, puisque nous ne pourrons pas avoir de salut collectif, essayons de nous sauver nous-mêmes.
Alors, ce qui est d'ailleurs... Cultivons notre jardin.
Cultivons notre jardin. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu aujourd'hui, où, comme on le dit un peu trop souvent, nous sommes sortis des grands récits politiques, nous en avons terminé avec toutes nos espérances soit révolutionnaire, soit même réformiste. Autrement dit, il nous reste en quelque sorte à essayer de nous modifier nous-mêmes. Alors typiquement, l'ascèse, c'est pas faire du sport. Hein. Je n'en fais pas personnellement, mais je comprends parfaitement qu'on en fasse par plaisir. Mais en revanche, calculer le nombre de pas que l'on fait, le nombre...
Ça, le téléphone le fait pour vous.
Voilà, le nombre... En plus, ça s'articule très bien à des machines, l'ascèse. Le nombre de calories qu'on a perdues. C'est-à-dire essayer en permanence d'instaurer entre son corps et celui des autres, ou entre son corps et le monde, un rapport de contrôle que vous faites très très bien de le dire, à terme des machines, et alors là on aura vraiment quitté le plaisir, que des machines feront mieux que nous.
Ben, mieux que nous...
Calculeront mieux que nous.
D'accord. Curtis Harding sur France Inter, c'est un soul man du 21e siècle. Forevermore.
I can't keep my cool. Thank you.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Fabien Roussel, mais j'en perds mon latin, j'étais dans les vapes. Fabien Roussel, qui est député du Nord, qui a été candidat communiste à la présidentielle et qui a créé une petite polémique en janvier dernier. Michael Fessel, je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès.
C'est encore des mots qui excluent une partie de la gastronomie qui a lieu en France. La gastronomie française est bien mangée, c'est aussi manger des raclettes qui sont suisses, des pizzas qui sont italiennes, des sushis qui sont japonais. Bon ben voilà, c'est la France et on peut être français et française depuis plusieurs générations et adorer le couscous, c'est pas le sujet.
Alors ben non, c'est pas le sujet, je crois que c'est Sandrine Rousseau qui est pas dans le sujet, parce que c'est pas ce que voulait dire Fabien Roussel. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut, pour critiquer un ordre social, ce que fait Roussel, est-ce qu'il faut en refuser en quelque sorte les plaisirs qu'il autorise?
Oui, ou qu'il n'autorise pas d'ailleurs, parce que c'est précisément là-dessus qu'il était d'abord initialement intervenu. Je retiens d'abord que le plaisir en France, quand on l'articule à la politique, c'est l'alimentation, hein. C'est la bouffe. Ça n'est plus la fête et encore moins la sexualité. Mais bon, c'est la France et c'est vrai qu'en France, quand on ne mange pas, on parle de ce qu'on mange. Donc,
il y a une dimension et parfois on en parle.
Ce qui d'ailleurs montre bien que le plaisir de l'alimentation n'est pas seulement dans la nourriture, mais effectivement, et ça de ce point de vue-là, Roussel a raison, dans une forme de rassemblement, de sociabilité, qu'on voit mal au nom de quel idéal on pourrait reprocher à ceux qui, soit en ont encore les moyens, soit ne les ont plus. Alors ensuite, évidemment, il y a, comme toujours, dans le débat français aujourd'hui, plus rien quasiment ne peut plus être évoqué sans que ça devienne immédiatement identitaire. C'est-à-dire que, et même un peu Roussel a donné là-dedans, après, c'est devenu l'art de vivre à la française.
Oui, parce qu'après, il a dit aussi qu'il aimait la paella, qu'il aimait le couscous,
Il
est revenu.
Toutes choses qui d'ailleurs sont justifié. Tout à fait fascinantes. Mais cela
c'est
étant,
très bon.
Les choses sont fascinantes. C'est le fait de donner son avis sur les mets. C'est intéressant au sens où ça montre que on peut politiser des questions qui sont des questions liées au plaisir et que l'alimentation est typiquement d'ailleurs un problème qui ne devrait pas tellement poser de problème quant à sa politisation, puisqu'elle pose à la fois la question de la distribution, de la production, des inégalités et aussi du plaisir qui va avec. Alors je dirais que la défense, enfin plutôt l'attaque qui a été faite en direction de ses premières sorties sur le côté bon couscous ou voilà, bizarrement ça n'est pas parti sur le vegan d'ailleurs, sur l'opposition à la viande contre ceux qui n'en mangent pas, mais encore une fois tout devient identitaire, c'est-à-dire tout est lié à l'art de vivre à la française, qui pour le coup d'ailleurs effectivement gastronomiquement est plutôt bon, hein. On n'est pas obligé non plus d'avoir une vision absolument cosmopolitique qui comparerait la gastronomie allemande à la gastronomie française, hein. Je dis d'autant
plus on va se faire des copains après les Japonais contre lesquels j'ai râlé tout à l'heure, maintenant voilà les Allemands.
Non, mais les Allemands ont beaucoup de choses, en particulier de très grands philosophes, mais pour les plats c'est un peu moins bien, je me dis, en tant qu'Alsacien. Alors, simplement, je veux dire par là qu'il y a des plaisirs...
On marche très bien en Alsace. Arrêtez.
En Alsace, on marche très bien. Justement, je le dis en tant qu'Alsacien.
Ah oui, en tant qu'Alsacien. Vous regardez les Allemands de travers. N'oubliez
sur
pas
la question gastronomique.
L'Alsace fut allemande.
Justement. Mais, bon, alors, c'est parce qu'elle a été française qu'on mange si bien en Alsace.
D'accord.
Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des plaisirs qui sont... Et je crois pas que politiquement, ce soit tellement, intéressant de les condamner, qui sont des plaisirs d'adéquation à l'art de vivre. En l'occurrence gastronomique ou un certain type de mode, enfin des choses qui, au fond, c'est des plaisirs qui sont en quelque sorte attestés par la tradition. Et puis il y a
et l'abondance aussi peut-être. Est-ce qu'on peut parler de bonne bouffe entre guillemets dans une période où il n'y a pas forcément d'abondance pour tout le monde, même pas du tout. Est-ce que c'est pas ça aussi ?
Il n'y a pas d'abondance pour tout le monde et où même l'idée d'abondance peut devenir, compte tenu de la crise climatique, peut-être un peu suspecte. Cela étant, je crois quand même que la gauche, je ne sais pas, enfin qui que ce soit en politique, ne peut pas se arriver en proposant uniquement de la rareté ou de l'austérité, en particulier à ceux qui n'ont déjà rien. Je veux dire ceux qui n'ont jamais été invités à la fête, c'est difficile de leur expliquer que la fête est finie. C'est difficile et c'est injuste. Donc je pense qu'il faut plutôt essayer de repenser l'abondance autrement que d'un point de vue simplement quantitatif, la redéfinir autrement que la surconsommation d'objets. Oui. Mais il y a des plaisirs qui sont aussi des plaisirs transgressifs par rapport à la tradition et après tout, effectivement, on voit bien que la cuisine aujourd'hui s'est mondialisée. Il y a aussi des moyens, je dirais, pas simplement commerciaux, mais de découvrir c'est pas tellement de découvrir des saveurs étrangères ou nouvelles qui est important. C'est qu'en réalité, comme la cuisine, c'est un moment de sociabilité, c'est aussi une manière peut-être de remettre en cause de la xénophobie, des manières. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des opinions politiques, je dirais, assez xénophobes, pour ne pas dire plus, mais qui ne résistent pas à la possibilité. Enfin, la réalité plutôt de tout d'un coup être modifié dans ses croyances par une expérience, et souvent ça passe par la nourriture, qui au fond dédramatise un peu les enjeux. Il faut sortir parfois au fond le plaisir, les plaisirs politiques intéressants, c'est ceux qui nous font sortir des imaginaires, toujours en général un peu, souvent assez conflictuels, pour montrer que finalement c'est pas si grave. Et pour le montrer, il y a parfois des possibilités d'avoir simplement des allégresses avec des gens dont on pourrait avoir peur parce qu'ils sont soit étrangers, soit qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle, soit qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous. Je dirais pas que le plaisir va régler tous les problèmes, mais des joies partagées sont aussi des manières de neutraliser un peu les représentations qui nous opposent les uns aux autres.
Joie partagée, bonne bouffe, bonne vie, consommation quelquefois. Le sexe, vous en avez déjà un peu parlé, Michael Fossel. Est-ce que l'érotisme aujourd'hui est encore subversif?
Alors, tout un discours, il ne l'est plus précisément parce qu'on considère que la promesse de 68, justement celle qui considérait que la libération par le décor allait mener aussi à la libération sociale, cette promesse n'a pas été tenue. Alors il est vrai qu'elle n'a pas été tenue, mais je me suis intéressé dans ce livre à une tradition philosophique qu'on appelait le freudomarxisme, qui a été un peu perdu aujourd'hui, mais complètement en France, en particulier un auteur qui s'appelle Marcuse, qui justement a beaucoup influencé 68. Qui a essayé de montrer qu'au fond, la liberté, l'émancipation des corps et l'émancipation sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui à tort le social et le sociétal en les opposant, ça allait de pair. Et qu'au fond, c'est seulement quand il y a une distinction, une opposition entre les deux, que on perd, si je puis dire, sur les deux tableaux. Donc évidemment, la sexualité n'a plus le caractère subversif qu'elle avait. Si on entend par là le fait que les tabous se sont levés, que la pornographie est maintenant disponible, je dirais, en libre accès, que l'on peut apparemment tout vouloir, tout désirer. Cela dit, il ne faudrait pas être dupe de cette
avec
liberté.
Avec même des limites. Voilà. MeToo en est un exemple. Hein,
bien sûr,
c'est un
bien
mouvement
sûr.
Très très fort et où en fait il y a qui amène peut-être à une politisation en quelque sorte des conduites sexuelles.
Des conduites sexuelles et ici la question du désir avec la question du consentement évidemment ça renvoie un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrivée des femmes depuis une cinquantaine d'années, d'ailleurs à peu près quand même depuis 68, un peu plus longtemps d'ailleurs, sur la scène et du désir et du plaisir, c'est-à-dire exigeant que leur désir soit respecté, ça c'est l'aspect je dirais MeToo et tout ce qui tourne autour de la revendication bien normal au consentement. Et puis, un aspect dont on parle moins, qui est ce que les femmes parlent, disent, à propos de leur plaisir, cette fois-ci. C'est-à-dire la manière de reformater, repenser la question de l'orgasme. Doit-il être forcément lié à la pénétration? Est-ce qu'il n'y a pas des représentations, je dirais, masculinistes du plaisir? Et évidemment, ces deux aspects, qui sont évidemment absolument des progrès, eh bien, mettent un peu en difficulté un certain nombre d'hommes qui, dans le champ du désir, considèrent qu'ils doivent être la loi, et qui, dans le champ du plaisir, considèrent qu'ils doivent être les principaux privilégiés.
Est-ce qu'un film comme Les Valseuses ferait encore rire s'il sortait aujourd'hui. Et je vous dis ça parce qu'il se trouve que Bertrand Blier publie un roman intitulé Les Valseuses qui, à mon avis, raconte la même histoire.
Alors, Les Valseuses est un film qui, quand il est sorti, c'est-à-dire dans les années 70, ouais, 70 73, je crois, a été 74, vu comme un film d'ailleurs plutôt de gauche, je dirais, en tout cas subversif, parce que faisant la critique drôle ou pas, mais en tout cas la critique caustique de la vie bourgeoise, de l'ennui bourgeois,
évidemment.
La distanciation, la France pompidolienne qui s'ennuie.
Alors, mais évidemment, il y avait eu une journaliste dans Libération qui avait dit qu'elle avait aimé, mais après elle a dit qu'elle a écrit qu'elle avait en fait regretté.
Elle avait regretté d'avoir aimé parce que c'est un texte qui était très intéressant parce qu'elle dit au fond j'ai eu mal des rires de la salle. Puisqu'effectivement il y a une dimension, je dirais si on la prend en tout cas de manière littéral, sexiste dans les pérégrinations, si je puis dire, les exploits, là aussi, si je puis dire, de Devers et Depardieu avec Miu Miu. Mais le texte était très fin, parce qu'elle disait, au fond, j'ai eu le plaisir, c'est un chouette film, c'est un film de gauche, d'ailleurs, je crois qu'elle écrit ça en 73, mais je m'en suis voulu. C'est-à-dire, il y a toujours le moment d'après, le moment de la réflexivité. C'est vrai qu'on a des plaisirs, des joies ou des rires dont on a honte a posteriori. Alors moi, le critère, je pense, c'est que c'est aujourd'hui, il y a tout un enjeu autour des Valseuses ou d'Audiard. Alors on dit finalement, bon, c'est quand même des films qui sont complètement irregardables aujourd'hui, qui du coup sont revendiqués un peu par les réactionnaires bon vivants, en disant maintenant on n'a plus rien le droit de dire. Au moins à l'époque d'Audiard, il n'y avait pas des féministes complètement castratrices ou des homosexuels qui ne nous permettent pas de rire. Bon, je dirais que le problème.
Et la honte et la peur sont pas forcément, pas plus que la tristesse d'ailleurs, n'obtiennent pas vos suffrages en tout cas.
Oh, la tristesse, j'essaie de l'éviter.
Non, mais même la honte et la peur, vous
en avez. Non, la honte, oui, la honte, ça, je ne suis pas sûr que la honte soit constitue un élément. La honte, enfin, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui n'a honte de rien, c'est quelqu'un dont je me méfie moralement, évidemment, mais transposer la honte en principe politique, faire de la honte un élément de mobilisation me paraît déjà plus discutable. Vous savez, par rapport à des films ou à des rires dont on peut avoir honte, en fait, c'est pas tellement ce dont on rit, c'est avec qui. La question est réglée, à mon avis, par on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, parce qu'au fond...
C'est Pierre Desproges qui disait
ça. C'était Desproges qui disait ça, très justement, parce qu'au fond, on voit bien qu'il y a des rires d'adhésion. Si je vois une scène des Valseuses qui est clairement misogyne, et que j'entends des rires qui sont des rires d'adhésion à ce que je vois, alors là, je n'ai pas envie de rire. Mais si on les voit comme des rires de distanciation par rapport à la mise en scène, ce qui est quand même le propre du théâtre, du cinéma, c'est-à-dire la catharsis, la distance, alors on peut en rire, parce que c'est une manière aussi de purger en quelque sorte nos mauvais penchants.
Merci beaucoup Michel Fessel d'être venu nous parler de tout cela. Quartier Rouge, le plaisir et la gauche est publié aux éditions du Buff. Et puis un vieux bouquin, une vieille réflexion sur Kant, mais qu'on peut lire aussi, c'est chez Biblis. Merci en tout cas beaucoup. Dans un instant, unique en son genre, Julia Foyce.